La révolution numérique est partout, elle change nos vies. Pourtant, tout le monde n'en profite pas, tout le monde n'y a pas accès. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. C'est notre thème ce soir. Quelques chiffres éloquents. 15% des Français ne disposent pas d'Internet. 19% n'ont pas d'ordinateur à domicile et 27% d'entre eux n'ont pas de smartphone. Et puis, il y a ceux qui disposent d'appareils connectés à Internet, mais qui ont du mal à s'en servir. Un sondage CSA pour la presse sociale révélait récemment qu'un quart des Français souffrent de ce qu'on appelle l'électronisme, qui est au numérique ce que l'illettrisme est à la langue française. Pour un quart des Français, acheter sur un site web ou remplir un formulaire administratif en ligne représente une vraie difficulté. Comment réduire cette fracture numérique? Vos témoignages sur ces difficultés face au web, c'est maintenant. Appelez-nous 01 45 24 7000 et puis aussi le site franceinter.fr. Nous avons besoin de vous. Le téléphone sonne. C'est votre émission et je vous présente nos invités pour évoquer ce dossier de la fracture numérique. Jean Dédier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et directeur d'Emmaüs Connect, association qui agit pour réduire la fracture numérique. Pascal Plantard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Rennes, anthropologue des usages des technologies numériques et co-directeur du groupement d'intérêt scientifique Marsouin, un centre de recherche sur les usages du numérique. Et puis, Missou Youn, bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice générale adjointe en charge de l'offre de services à Pôle emploi.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Hervé est à Saint-Nazaire. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je souhaitais témoigner sur le sujet parce que bon, je suis touché dans le cadre de mon travail et puis aussi j'aurai un témoignage à vous communiquer en tant qu'usager. Moi je pense que la fracture, elle se construit des deux côtés de la chaîne. Vous introduisez le sujet en parlant des personnes qui sont en difficulté ou qui n'accèdent pas du tout à Internet. Moi, je pense aussi que, alors c'est une réalité, je pense aussi qu'il y a une responsabilité côté des entreprises et des administrations. C'est-à-dire que on doit accompagner ces personnes et on doit aussi leur fournir le service qu'on leur promet. C'est-à-dire que moi c'est le constat que je fais, c'est on a des administrations qui aujourd'hui vont de plus en plus sur des services en ligne, avec une adaptation à cette nouvelle économie, mais aussi pour faire des économies en termes de personnel. Il y en a des réductions des réseaux traditionnels d'accueil physique ou de guichet. Et le problème, c'est que comme on n'investit pas dans les outils informatiques, on ne fournit pas toujours un service qui est au rendez-vous. Et quand vous avez un service Internet qui n'est pas au rendez-vous, que ça bug, ça devient une situation pas possible pour les gens qui sont pas à l'aise. Moi, j'ai eu le cas, et j'aurais fini après ça, oui. J'ai eu le cas quand j'ai voulu refaire une carte grise de véhicule, le système était passé qu'en ligne. Alors qu'avant, il suffisait que j'aille à la préfecture pour déposer un dossier. Alors je me doute bien que si c'est moi qui remplis en ligne, c'est plus facile et ça prend moins de temps et ça demande moins de personnel derrière pour traiter une demande papier. Mais le problème, c'est que le portail, il fonctionnait pas bien. Et j'en ai été pas à pleurer devant mon PC le soir, oui. Et à me demander comment j'allais y arriver. Alors j'imagine pas les gens dont c'est le quotidien d'avoir la trouille de pas y arriver, quoi.
Mais vous admettez que par exemple pour ce système des cartes grises qu'on peut maintenant obtenir par Internet, c'est quand même pratique parce que ça prend beaucoup moins de temps si on compare avec ce qui se faisait avant.
Pour avoir déjà fait avoir eu à déposer un dossier en préfecture à une époque, parce qu'après, je suis d'accord, il y a un gain de temps et puis ça permet d'avoir des agents de l'État ou des administrations ou des entreprises qui sont sur d'autres tâches qui nécessitent leur attention. Mais le problème, c'est que quand le service il fonctionne pas, moi je vous garantis,
bien sûr.
Je pense que je suis pas le seul à pouvoir témoigner dans ce sens-là. Je me suis arraché les cheveux devant le portail à n'avoir aucune réponse et aucun interlocuteur humain. C'est ça aussi le truc, c'est que si le système ne fonctionne pas,
bien sûr,
il est
perceptible. On va vous répondre. Vous évoquiez de votre intervention les entreprises et les administrations qui devraient mieux accompagner ce développement du numérique dans le fonctionnement de notre économie aujourd'hui sur ce point. Missou Youn, directrice générale adjointe en charge de l'offre de services à Pôle emploi.
Vous avez parfaitement de raison de l'évoquer et nous en avons fait un enjeu majeur à Pôle emploi parce que maîtriser le numérique, ça sert pour plein de choses. Évidemment, comme vous l'avez mentionné, pour accélérer les démarches administratives, obtenir une réponse plus vite, mais ça sert aussi aujourd'hui parce qu'on estime qu'en France, 75% des emplois nécessitent des compétences numériques de base et qu'il faut pouvoir se former à maîtriser ces compétences numériques. Et troisième aspect... Parce que lorsqu'on est, par exemple, je parle pour le cas de Pôle emploi, demandeur d'emploi, maîtriser les compétences numériques, c'est aussi se donner plus de chances de mobiliser les outils digitaux utiles à la recherche
mais
d'emploi.
Mais que faites-vous concrètement?
Et donc, tout cela étant parfaitement utile, Pôle emploi l'a mis au cœur de ses missions. Par exemple, notre enjeu a été vraiment de détecter le besoin le plus rapidement possible, détecter là où des personnes avaient vraiment besoin d'être mises à bord du numérique pour pouvoir proposer plus vite des solutions. Donc, détecter en mettant en place des dispositifs de diagnostic. Dès l'inscription à Pôle emploi, nous posons des questions sur la maîtrise des outils digitaux, ce qui nous permet derrière de proposer un accompagnement, voire des formations, pour se mettre à bord. On a aussi investi humainement sur l'accompagnement digital. En agence, on a aujourd'hui 2800 personnes jeunes en service civique qui sont en charge de l'accompagnement des usagers sur les outils informatiques pour pouvoir les aider à mener leur démarche, pour pouvoir aussi leur permettre de passer ce cap et ce que mentionnait notre auditeur, passer finalement ce moment de stress qui parfois caractérise nos usagers.
Jean Dédier, fondateur et directeur d'Emmaüs Connect, c'est votre quotidien initié au numérique, ceux qui sont un peu perdus, qui ne savent pas, qui ne sont pas des initiés.
Oui, et nous, notre enjeu, c'est à l'intérieur de cette fracture numérique, c'est de proposer des parcours adaptés. Et la réalité de l'éloignement au numérique varie terriblement d'une personne à une autre. Et entre quelqu'un qui est proche du numérique, dans le fond, pour lequel c'est pas tant la compétence numérique, mais la confiance qu'il va avoir dans une interaction dématérialisée sans avoir des modalités de dialogue, qui va poser problème. Et là, évidemment, la compétence numérique est jamais très loin derrière. Mais l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans un échange qui est dématérialisé. Voilà. Et donc, on est dans des mécanismes de réassurance sur lesquels on peut trouver dans des temps courts des solutions qui fonctionnent. Et on a d'ailleurs fait ça avec Pôle emploi et d'autres acteurs, avec des taux de transformation ou des taux de succès relativement élevés. Donc là, on va dire qu'on est vraiment dans le dialogue avec l'opérateur qui porte le sujet et comment ses propres ressources peuvent nous aider à produire un accompagnement pour ces personnes. Il en est d'une toute autre manière quand il s'agit de personnes, on va dire, en prendre les plus exclus, où là, l'enjeu, c'est que l'action sociale, qui est l'acteur référent qui accompagne historiquement ces personnes, est challengée, on va dire, dans ses propres compétences et qu'elle doit progressivement, elle-même, être en capacité d'accompagner ces personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elles connaissent cet univers de téléprocédure. Donc, elles apprennent à tisser des liens avec ces opérateurs. Il faut qu'elles soient équipées. Il faut qu'elles aient des personnes qui soient en capacité d'accompagner ces personnes. Et puis, il y a probablement ce qui est l'équation la plus compliquée, c'est de former des gens qui ont la capacité, de les former vers l'autonomie numérique. Et pourquoi c'est l'équation la plus compliquée? Parce que c'est ce qui est le plus coûteux, c'est ce qui nécessite de l'infrastructure, des contenus pédagogiques et des ressources, on va dire, intelligentes pour pouvoir former ces personnes.
Un courriel, Lisa nous a écrit, j'ai un smartphone, je m'en sers beaucoup, mais envoyer un CV en ligne, il faut savoir le faire, et moi je ne sais pas, on ne me l'a jamais appris. Pascal Plantard, c'est courant?
Alors, c'est tout à fait courant. La première chose qu'il faut arriver à déconstruire lorsqu'on parle de fracture numérique, c'est cette idée que finalement, d'un côté, il y aurait les pauvres et les autres. Donc la fracture numérique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le courriel nous renvoie aussi à une deuxième, ce que moi j'appelle des techno-imaginaires leurrants, c'est-à-dire que nous, autour des technologies, nous avons tout un tas de représentations qui sont pas forcément très 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 efficaces en termes de recherche d'emploi, etc. C'est le jeunisme. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la génération Y n'existe pas et que nous avons tout un tas de jeunes qui sont presque privés de l'accès à l'ordinateur tant ils utilisent de manière quotidienne et la plupart du temps pour des questions finalement de loisirs, pour regarder des vidéos sur YouTube, etc., des technologies qui les tiennent éloignés de ce qu'on est en train de se raconter, c'est-à-dire éloignés de l'ordinateur, éloignés des sites, éloignés de l'administration, éloignés des transpositions qui peuvent être utiles tant sur le plan scolaire que sur le plan professionnel après.
Et qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, ce qu'on
pour
fait
pour réduire cette cette fracture.
Il fut un temps. J'ai écrit un bouquin avec un livre collectif en 2011 qui s'appelait Pour en finir avec la fracture numérique. Oui. C'était pas pour en finir avec la fracture numérique elle-même. C'était pour en finir avec la notion de fracture numérique. Elle couvre beaucoup de choses et je trouve que la première question d'Hervé était vraiment intéressante. La fracture numérique, ça nous concerne tous finalement. Et elle est à multiples niveaux et elle a plusieurs catégories. Donc la première chose à faire, c'est de déconstruire cette idée de fracture numérique et puis de traiter les inégalités en tant qu'elles sont dépendantes de plusieurs logiques différentes. Alors très rapidement, pour moi, il y en a trois. La première logique, c'est, on va dire, la logique des zones blanches, la logique de la connexion, assez clairement. En milieu rural, on sait très très bien qu'il y a des zones blanches complètes. Comment faire de l'e-administration dans les zones blanches, particulièrement pour les anciens, pour les plus démunis, etc. Ouais. Donc ça, c'est une histoire de politique publique. Deuxième public que l'on connaît plus et dont Emmaüs Connect, c'est le public principal d'Emmaüs Connect, j'en parlerai un petit peu moins, on va dire pauvreté, précarité, les minima sociaux, etc., etc. Mais il y a un troisième public qui est vraiment un public important, qui est le public qui est en train d'émerger autour des déconnexions volontaires et involontaires. Volontaires, il y a tout un tas de jeunes aujourd'hui, je renvoie au travail de mon collègue Francis Jory-Guibéry, qui sont en train de repousser les technologies en disant les technologies c'est le mal. Alors il y a des questions idéologiques, il y a des questions presque religieuses qui sont là-dessous. Et puis les déconnexions involontaires, je vais vous prendre la situation la plus critique aujourd'hui, c'est le quatrième âge. Quand vous arrivez aujourd'hui en EHPAD, vous êtes en situation d'Alzheimer, l'e-administration ne nous méprenons pas sur le diagnostic. Hein. C'est très bien que l'administration avance, sauf qu'elle a des effets de bord, des dommages collatéraux, comme on dit. Et ben, quand on arrive en EHPAD aujourd'hui, vous imaginez bien que quelqu'un du quatrième âge va avoir un petit peu de mal à retrouver tous ses codes pour récupérer tous ses droits. Et là, on a un vrai besoin de médiation numérique, comme ça a été dit précédemment.
On va au standard. Nathalie nous écoute et veut participer à l'émission. Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Nathalie, bonsoir.
Oui, bonsoir Pierre et bonsoir à vos invités. Donc je vous appelle du Gers, je suis conseillère Pôle emploi et je voulais vous faire part de certaines difficultés, donc principalement dans le Gers dues aux zones blanches et les difficultés à certaines personnes, c'est ce que disaient vos invités très justement, d'appréhender cet outil. Donc par peur, par elles ne l'utilisent jamais et la plupart n'en ont tout simplement pas envie. Elles n'en voient pas l'utilité. Nous, on est dans un secteur principalement agricole et les personnes arrivent à se débrouiller, à trouver des emplois comme ça. Donc, l'utilité d'utiliser le numérique pour nos démarches, elles trouvent ça surfait, puisqu'elles ont toujours fonctionné normalement. De humain à humain, on donne le papier et ça fonctionne. L'avantage... Je continue juste 2-3 petites minutes.
Allez-y.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'à Pôle emploi, on a déployé des choses fantastiques pour accompagner les demandeurs d'emploi. Et c'est là où je rejoins Missou Youn par rapport à ça. Ce qui se trouve, nous, on a une autre problématique, c'est l'éloignement géographique des personnes vis-à-vis de Pôle emploi. Notre département est très grand et il y a des personnes qui doivent faire plus d'une heure pour venir rejoindre notre agence. Pour déposer un papier, parce qu'elles n'ont pas Internet, elles n'ont pas de scanner, et en plus, elles ont des difficultés pour accéder à Internet.
Nathalie, mais dans dans le Gers, vous parlez de zone blanche, ça concerne un large secteur du Gers ?
Ça concerne l'est du Gers. Là, aujourd'hui, près de Auch, il y a un pylône qui va se monter pour retirer une des zones blanches du Gers. Oui. Ça fait 4 ans qu'ils attendent. Ils n'avaient connexion sur rien. Mais absolument rien. Et il y a encore des personnes qui sont obligées de passer par l'antenne satellite.
Merci d'avoir témoigné. Merci d'avoir témoigné, Nathalie Missou Youn, directrice générale adjointe en charge de l'offre de services à Pôle emploi. Vous êtes surprise par ce témoignage. Ça se passe dans le Gers, mais ça se passe aussi dans d'autres départements où vos services ont du mal à fonctionner parce qu'il y a des zones blanches, pas d'Internet, rien.
Alors nos agences maillent bien le territoire, hein, avec 900 agences, nous sommes à proximité des usagers, mais on ne répond pas à toutes les problématiques, et comme le citait Nathalie, oui, il y a des personnes qui ont besoin de faire du trajet pour venir à Pôle emploi. Et c'est pour cela que nous sommes extrêmement actifs dans le fait de nouer des partenariats. On n'est pas tout seul, hein, dans la lutte contre les difficultés numériques, et pas tout seul non plus pour voir des équipements, et pour cela, il faut savoir travailler avec les autres. Alors c'est la logique des maisons de services au public qui proposent des équipements et qui proposent un accompagnement aux démarches administratives, mais c'est aussi la logique des partenariats que nous nouons avec le monde associatif, hein, par exemple avec Emmaüs Connect, mais aussi avec les acteurs par exemple de la médiation numérique qui nous permettent de proposer des solutions à des personnes plus près de chez eux. Voilà, donc on a vraiment cet enjeu-là de bien mailler le territoire pour pouvoir proposer et des équipements et des accompagnements aux usages digitaux.
Est-ce qu'on connaît la superficie en France de ces zones blanches, Pascal Plantard ? On a une idée ?
A priori, les études précises sur la zone blanche ont été stoppées il y a quelques années. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est que en fait, elles dépendent du renouvellement d'un certain nombre d'équipements sur les zones blanches, et elles sont surtout excessivement concentrées sur des territoires où on a des retours usagers, c'est-à-dire qu'on le sait plus parce que le public va répondre à nos enquêtes en disant ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. D'après la dernière des estimations qu'on a en croisant les données, puisqu'on est plutôt dans cette idée de ne pas avoir une seule logique, mais des croisements de données, on serait quand même à 15% du territoire, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est beaucoup, et très très situé, pour vous donner des régions que je connais bien, en Bretagne, c'est le centre-Bretagne, dans le massif central, c'est tout ce qui concerne les volcans, etc. Dans les Pyrénées, c'est voilà, on a des zones qui sont très caractéristiques, qui ont aussi, on comprend, il y a des difficultés techniques pour les opérateurs. Il n'empêche que le minimum, quand on parle de numérique pour tous, ça serait quand même de rééquilibrer.
L'UFC Que Choisir affirmait en décembre dernier que le meilleur du très haut débit est accessible pour moins de 1% des habitants en Creuse ou Dordogne, alors qu'il l'est pour 90% des habitants de Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Et Édouard Philippe a présenté il y a quelques mois un plan en matière d'aménagement numérique du territoire. Il a débloqué 100 millions d'euros. Pourquoi faire, Pascal Plantard?
Alors, c'est là que tout ça se complique et que je pense que la recherche a aussi de l'importance pour donner une espèce de profondeur historique à tout ça. Ce qui se passe aussi, c'est que les usages changent. Les usages, finalement, ce sont de nouvelles pratiques et des pratiques qui peuvent être très envahissantes. Nul n'ignore aujourd'hui la surconsommation de nos adolescents autour de YouTube. Des mesures ont été faites de manière très très précise, en particulier en Bretagne, puisqu'on a l'instrument qui nous permet de regarder. La moitié de la bande passante du très haut débit breton est occupée par YouTube. Mmh. Alors je ne sais pas si, pour faire une image qui porte quand même, je ne sais pas si on imaginerait que des files ininterrompues de camions californiens passent sur nos quatre voies à longueur de temps. Donc on a aussi ce problème que finalement le très haut débit, il est aussi envahi par un certain nombre d'usages dont on peut quand même questionner la pertinence. Vous voyez, il y a des effets de bord qui sont vraiment importants.
Jean Dédier, sur ces 100 millions d'euros débloqués pour un plan d'aménagement numérique du territoire, ça vous concerne ?
Alors moi, je peux rien faire hein, quand il y a zone blanche. Non, moi, mon sujet, c'est effectivement quand on crée de l'infrastructure, c'est qu'on y intègre aussi des dimensions enrichissement des partenaires qui peuvent aider sur le développement des usages. Mmh. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'effectivement pour les publics précaires, ça touche tout le monde, mais aussi ça touche aussi les très petites entreprises qui ont aussi besoin de développer leurs compétences pour faire leur activité. Donc effectivement, ce qui me semble évident, c'est quand on déploie de l'infrastructure, il faut aussi probablement mettre un peu de moyens pour tout ce qui va être création de valeur autour des usages que permet cette infrastructure.
Marie à Paris. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir. Écoutez, avec le glissement progressif des services publics vers les téléprocédures, on s'aperçoit finalement qu'on ne peut plus être citoyen autonome sans avoir accès à Internet. Donc je voudrais savoir à quel moment il y a eu un débat au Parlement pour valider cette évolution de la société, qui est quand même pas négligeable, et bien sûr l'accompagner. C'est parce que j'ai l'impression que chacun fonctionne avec des solutions quand il en trouve à proximité de chez lui, et j'ai l'impression qu'on a échappé à ce débat national qui aurait dû accompagner cette évolution que par ailleurs est nécessaire. Enfin bon, voilà.
Et vous, cette évolution, elle vous convient ?
Moi, pas forcément dans tous ces aspects.
C'est-à-dire, par exemple ?
Je trouve qu'il y a des services publics qui sont de moins en moins accessibles. Alors moi, pas à titre personnel, si vous voulez, mais dans mon entourage, je m'aperçois qu'il y a des services publics qui ne sont plus accessibles autrement que comme ça. Et du coup, ils ne sont même plus accessibles par téléphone sans passer par des systèmes de répondeurs à rallonge dont tout le monde aura pu faire l'expérience. Le fondement de ma question, c'est ça, c'est à quel moment, comme c'est une évolution de la société, globalement, à quel moment le Parlement en a-t-il débattu ? Et j'en ai pas le souvenir.
Qui veut répondre ? Pascal Plantard ?
Alors, il n'y a pas vraiment eu de débat sur cette question.
Se met progressivement en place au fil des administrations et des ministères.
Alors, c'est une vraie question de rapport entre, finalement, la culture et le politique. Ce qui s'est passé, c'est que avec le développement de l'e-administration et d'un certain nombre d'autres services, je pense à l'école par exemple, on a eu pas mal de politiques qui étaient techno-centrées. C'est-à-dire que le postulat de départ, c'est on met à disposition des technologies et ça va marcher. Tous les travaux là-dessus démontrent que c'est jamais aussi simple que ça et qu'il faut de l'accompagnement, ça a été dit plusieurs fois, de la médiation, de l'éducation, de la culture. Aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, après une dizaine d'années d'efforts, l'e-administration a explosé ces trois dernières années. Moi, je m'en réjouis parce qu'il y a plein de rationalisations qui sont très intéressantes, mais ça laisse de côté tout un tas de personnes en situation d'exclusion, tant et si bien que les travaux des collègues de l'Odenor ou du Défenseur des droits réclament instamment...
Alors,
l'Odenor, c'est l'Observatoire des droits des plus démunis, une équipe...
Mais c'est bien, tout le monde ne connaît pas, voilà. Il faut mettre les sous-titres, c'est mieux.
Je réfère au travail de Pierre Mazet, qui est un collègue qui vraiment travaille beaucoup dessus. Il y a une espèce d'allant de soi, c'est-à-dire que c'est pas inscrit dans les textes, ça n'a pas vraiment été débattu, mais le numérique technologique devrait permettre d'arriver à avoir plus de droits. Ce que l'on constate, et là c'est vraiment très très précis, c'est que finalement ça augmente le non-accès aux droits, ça augmente ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire tout un tas de gens qui trouvent que c'est trop compliqué et qui n'y vont plus. Et donc le Défenseur des droits, dans son dernier rapport, demande à ce que toutes ces alternatives technologiques soient accompagnées de ce qu'on va qualifier de médiation numérique, c'est-à-dire finalement d'un pendant humain. Il faut avoir quelqu'un, soit au bout du fil, soit au bout d'un guichet, en particulier pour ces publics. Et là, on est entre les deux.
Et l'accompagnement, c'est ce que vous faites, Jean Dédié, avec Emmaüs Connect.
Oui, alors sur ce sujet, effectivement, moi j'étais aussi surpris qu'il y ait assez peu de débats démocratiques. Mais je pense que la raison est assez simple. C'est que je pense que c'est très majoritairement perçu comme positif. On est sur finalement la numérisation de la société ou des interactions. Je pense que ça emporte une majorité dont rêveraient beaucoup d'hommes politiques. Et que le risque, du coup, c'est toujours le risque des minorités silencieuses ou des gens très fragiles qu'on n'entend pas. Mmh. Et c'est là où il y a un point de vigilance absolu.
Et si on dit, voilà, il y a aussi le problème tout simple, c'est qu'il faut avoir de l'argent pour avoir un ordinateur à la maison. Et puis, il faut avoir aussi la possibilité de suivre une formation pour savoir se servir d'un ordinateur. Et tout le monde n'a peut-être pas les moyens de s'offrir, de se payer une formation de base sur le numérique.
Oui, je profite de votre remarque pour dire qu'effectivement, on a un peu tendance à oublier que pour les publics les plus fragiles budgétairement, les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour s'équiper est une dépense parfois inaccessible et qu'il y a probablement quelque chose à faire. Voilà, donc il y a des travaux qui essayent d'émerger sur ces sujets-là. Des réflexions, et peut-être que dans le plan pauvreté, on pourrait mettre quelque chose sur ce sujet-là, par exemple.
Mizouyun, pour l'emploi, sur tout ce qu'on vient de dire, sur cet accompagnement pour que l'on puisse se servir correctement du numérique et en profiter.
Moi, j'ai commencé par nuancer un tout petit peu, peut-être pour dire quand même que quand on interroge les demandeurs d'emploi, il y en a quand même 96% qui utilisent Internet dans leur vie courante et 90% qui l'utilisent pour leur démarche de recherche d'emploi. Donc, on est quand même sur une très, très forte proportion de personnes qui l'utilisent et qui en font un outil. Mais Je voulais aussi revenir sur le fait que le numérique, c'est positif aussi parce que ça permet de réallouer du temps à autre chose. Et à Pôle emploi, ce qu'on a pu faire, notamment en proposant l'inscription en ligne et en dématérialisant un certain nombre de procédures, c'est aussi de pouvoir dégager du temps pour accompagner davantage les demandeurs d'emploi. On a dégagé, grâce à la seule digitalisation, l'équivalent de 1300 emplois à temps plein qu'on a réaffecté totalement à de l'accompagnement personnalisé des demandeurs d'emploi. Ce qui nous a permis, pour le coup, de proposer, de l'intensification, de proposer plus de conseils, plus d'accompagnement sur l'ensemble des sujets de la recherche d'emploi.
Sur le site de l'émission, Arnold, un courriel et sa question : comment les universités s'emparent aujourd'hui de la formation aux compétences, des usages, des technologies pour les étudiants, citoyens ? Pascal Plantard, je rappelle, vous êtes professeur des universités à l'université de Rennes.
C'est un vrai sujet. Les technologies numériques dans l'enseignement supérieur nous ont fait bouger sur la manière dont on regardait les étudiants. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la fracture de la génération Y, on avait tendance à les considérer comme tous homogènes. Non, pas du tout. En fait, en faisant des vrais travaux sur les pratiques numériques des lycéens et des étudiants, on se rend compte que c'est pas pareil chez les garçons, chez les filles. C'est pas pareil en fonction de la filière. C'est pas pareil en fonction des territoires. Et ça nous renvoie, nous, dans l'enseignement supérieur, à la question, finalement, de l'adaptation de nos modalités pédagogiques. Et il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui d'accueil des étudiants, particulièrement de première année, pour leur donner un socle de formation qui soit à la fois technique, mais aussi citoyen. On les fait réfléchir sur ce qu'ils font quand ils vont sur les réseaux sociaux, par exemple.
Gina est à Pau. Bonsoir, Gina.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne.
Voilà. Donc moi je voulais dire que le fait de ne pas avoir d'ordinateur, on est discriminé, alors que ce soit par manque d'argent, que ce soit parce qu'on est âgé. Et je trouve ça incroyable de devoir téléphoner plusieurs fois, signaler qu'on n'a pas Internet, demander des formulaires papier qui n'existent même pas, par exemple pour la prime d'activité. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne la demandent pas parce que c'est le parcours du combattant quand on n'a pas Internet. Il faut, alors, des fois, vous tombez sur des gens conciliants et d'autres fois, vous devez répéter ça tous les 3 mois. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne la demandent pas parce qu'ils n'ont pas Internet. Ensuite, quand c'est pour la sécurité sociale, je dois faire 28 km. Quand c'est pour Pôle emploi, je dois aller faire 28 km. Allez. On me dit on a un poste dans nos locaux. Sauf que les locaux, ils sont très loin quand on est dans un petit village. Et moi, je préfère mettre cet argent-là dans des pneus neige pour me déplacer pour mon travail, plutôt que de le mettre dans Internet pour remplir un papier de temps en temps. Voilà.
Et vous n'avez vraiment pas l'intention de changer votre situation, de vous acheter un ordinateur
Non. Moi, je préfère mettre ça dans les pneus neige parce que quand je dois me déplacer de chez un allocataire à l'autre, c'est mon véhicule personnel et je ne peux pas m'acheter une voiture si j'ai un accident pendant le parcours.
Jean Dédier, ce témoignage de Gina.
Non, mais je pense que ce témoignage, c'est juste quelque chose qui est très entendable et respectable. Après, nous, notre mission, et c'est pas facile, et on trouve pas toujours les clés, c'est effectivement d'arriver à trouver des points de motivation pour les personnes. C'est-à-dire que quand même, le numérique offre des opportunités pour sortir de l'isolement, pour acheter moins cher. Il y a une étude britannique, alors les études, vous savez, c'est toujours à prendre de manière relative, mais qui démontrait qu'on pouvait en moyenne faire plus de 1000 euros par an d'économie avec une consommation moyenne sur Internet, en tout cas qui était moyennée. Voilà, c'est... C'est pas facile. On est dans un changement de, on est dans un monde qui change, où il y a des changements de posture, où il y a des nouvelles pratiques. Ce que je vois moi tous les jours, y compris avec des personnes très fragiles, c'est que l'acquisition de la compétence numérique peut vraiment changer la vie des personnes. Et c'est à nous, médiateurs, de trouver les clés dans le dialogue avec les personnes pour les ramener vers des services utiles.
Misoyun, à Pôle emploi, vous êtes confronté aussi à ce problème de devoir faire peut-être de la pédagogie pour expliquer à ceux qui viennent vous voir et qui ne sont pas connectés, qui estiment qu'il y a d'autres investissements à faire que d'acheter un ordinateur. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème et est-ce qu'à ce moment-là, vous tentez de convaincre ?
Il y a deux choses. D'abord, on a augmenté l'équipement de nos agences pour pouvoir proposer plus de possibilités de venir utiliser les services numériques en agence. Alors ouais. Oui, certes, ça peut nécessiter de faire du chemin. Et donc, du coup, on a de la pédagogie à faire, comme vous le dites, pour pouvoir convaincre nos usagers qu'il est utile de maîtriser le numérique. Mais pour plein d'aspects, enfin, je le redis, c'est utile pour occuper un emploi. 50% des métiers sont sur le point de muter et en particulier les métiers les moins qualifiés sont en train de se numériser. C'est utile pour chercher un emploi. C'est utile par exemple, mais enfin vous parliez tout à l'heure des usages YouTube. Ben, en Pôle emploi, on a sorti des tutos YouTube sur la recherche d'emploi. On s'adapte aux usages de nos publics et ça nous permet de venir toucher des personnes qui n'auraient pas été réceptives à nos conseils. Et c'est utile pour accélérer leur démarche et comme le disait Jean Dédier, pour gagner du temps. Donc oui, on a besoin de convaincre que c'est important de pouvoir maîtriser le numérique.
Sur le site de l'émission, un auditeur nous écrit « Comment passer au tout numérique sans logiciel capable de prendre en compte tous les matériels et systèmes d'exploitation ? Avec mon Mac, dit cet auditeur, avec mon Mac qui ne peut plus évoluer, je ne peux plus payer EDF, ni accéder à certains sites des impôts, et pourtant mon Mac, il fonctionne. » Là, c'est un problème un peu technique, Pascal Plantard ?
Alors, c'est la formule tout numérique. Et ça rejoint la question précédente. Le pays le plus numérique du monde, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, ça fait 15 ans qu'ils se suréquipent, qu'ils ont investi partout, services sociaux, éducation, université, services de santé, etc. La Corée du Sud est équipée, connectée à Internet, parce que chaque technologie a ce qu'on appelle sa socialisation, c'est-à-dire le smartphone, c'est pas la même chose que l'Internet fixe. Est équipé à 90%. Ça veut dire que même en Corée, il y a 10% de personnes qui ne sont pas équipées. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que la notion de fracture numérique a émergé en 1996 dans un discours de Bill Clinton à Knoxville. On connaît ce discours-là, où il dit clairement « Nous n'allons pas laisser de l'autre côté de la digital divide nos enfants, sous-entendu les enfants afro-américains, latinos, etc. » Pour rappel, en 1996, la population américaine équipée connectée à Internet était de 3%. Le tout numérique est un fantasme et il faut l'intégrer dans les politiques industrielles, publiques, etc. comme un fantasme. Ce fantasme, si on veut traiter les effets de bord, les 10% des Coréens où aujourd'hui on est à 85%, nos 15% d'équipés connectés, il faut quand même se dire que la dame qui nous a parlé tout à l'heure, elle a peut-être le droit de pas vouloir se connecter, première chose, dimension citoyenne. Deuxièmement, elle a peut-être peur de se connecter. Dimension accompagnement. Troisièmement, elle est peut-être isolée. On a des travaux très précis sur le fait que si les technologies numériques renforcent les capacités de socialisation des gens les plus socialisés déjà ordinairement hors numérique, ça met dans l'isolement des gens qui sont déjà très isolés, etc. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui sont très différenciées.
Fernando à Montreuil, merci d'être avec nous, Fernando.
Bonsoir à tous. Alors moi, je voulais vous parler de fracture numérique, mais sous un autre angle. Je suis aveugle, et donc pour moi, lorsque le numérique s'est fait jour, c'était la possibilité d'accéder à un certain nombre de contenus qui m'étaient totalement inaccessibles par ailleurs. Le problème, c'est que les règles en la matière ne sont pas respectées, même si on a des lois, des décrets, des arrêtés qui sont parus. Misoyun est dans vos studios, donc je vais parler un peu de Pôle emploi et dire notamment qu'il est aujourd'hui impossible pour une personne aveugle de faire des recherches d'offres d'emploi parce que le site Pôle emploi n'est pas accessible. Dire qu'on a de nombreux témoignages, notamment au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour dire que notamment les personnes en situation de handicap qui sont demandeuses d'emploi se font régulièrement reprocher par les conseillers de ne pas remplir les CV en ligne, notamment, alors même que ces modules ne sont pas conçus de façon nativement accessible. Donc, juste attirer l'attention sur ce point, de dire que Là, on a des formidables potentialités, comme ça a d'ailleurs été évoqué par certains de vos interlocuteurs. Bien sûr. Dans le même temps, on ne respecte pas du tout ces règles qui sont pourtant légales. C'est un peu pour forcer le trait, comme si aujourd'hui on continuait à concevoir des bâtiments sans ascenseur, en mettant des escaliers partout, sans concevoir de façon universelle, sans penser aux personnes en situation de handicap qui ont besoin cruellement de ces services.
Évidemment.
Et pour qui ça serait évidemment une formidable opportunité pour accéder aux services publics et de façon générale à la société et à l'ensemble des services.
Fernando Mizuyun de Pôle emploi, directrice générale adjointe, va vous répondre.
Alors, je ne vais pas évidemment mettre en doute ce que vous dites, je vérifierai ce point, mais nos sites sont labellisés et nous faisons beaucoup d'efforts pour rendre nos services accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc, je vérifierai précisément ce que vous avez
une
évoqué.
Une personne qui est non-voyante peut accéder à tous vos services.
À travers un équipement adapté,
bien
évidemment.
Sûr, oui.
Et par ailleurs, nous avons des équipements, par exemple, pour les sourds et malentendants en agence, qui leur permettent, grâce à une boucle magnétique, de pouvoir entendre la conversation et mener une conversation avec leurs conseillers. Donc voilà, nous avons un vrai investissement sur le champ de l'accessibilité de nos services physiques et digitaux. Mais voilà, je ne pourrais pas répondre sur ce point précis.
Loïc se trouve près de Rennes et nous appelle. Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre mon appel. Donc en effet, j'habite à côté de Rennes et à Rennes s'est ouvert récemment une boutique Google pour permettre à tout un chacun de découvrir les produits Google, et cette boutique aussi propose des ateliers de formation. Alors plus généralement, il me semble que les GAFAM ont une stratégie offensive dans le secteur de l'éducation et de la formation, en particulier auprès du ministère de l'Éducation nationale. Alors ma question, est-ce que, selon vos intervenants, ces initiatives peuvent participer, comme vous l'annoncez dans le titre de l'émission, à résorber la fracture numérique ?
Pascal Plantard, c'est bien que Google propose des formations ?
Alors, sujet épineux. Mais
il nous reste que 4 minutes.
Voilà, mais forcément très intéressant. Il est clair que l'objectif des ateliers Google, comme la stratégie des Californiens, globalement des GAFAM, ne doit pas être appréhendé avec naïveté. S'il s'installe à Rennes, c'est pas tout à fait de manière neutre. C'est un lieu qui développe les technologies. Vous vous rappelez tous du Minitel expérimenté à Rennes, enfin, etc. C'est un creuset de technologies, que ce soit au niveau des technologies conçues, que ce soit au niveau des usages.
Mais c'est quand même bien pratique s'ils proposent des formations.
À partir du moment où cet atelier fait autre chose que de proposer uniquement les solutions Google, à partir du moment où il ne, comment dire, couvre pas toute la dynamique rennaise des espaces publics numériques, des médiateurs numériques, etc. Et puis peut-être à partir du moment aussi où on les met quand même en perspective, ce sont aussi des gens qui ne payent pas du tout d'impôts. Le taux d'imposition des GAFAM en Europe, c'est 0,21%. 0,21%, s'ils payaient, je crois que l'État français leur demande 1 milliard, peut-être qu'on pourrait utiliser ces revenus ordinaires pour résorber la fracture numérique, plutôt que d'imaginer des ateliers. Donc moi, ça me pose de vraies questions citoyennes, plus que des questions scientifiques. Mais c'est le rapport aux GAFAM là, qui est vraiment questionnant et de manière radicale, puisqu'il s'installe, j'ai l'habitude de dire, dans mon jardin.
Courriel, on nous annonce le haut débit pour la France entière en 2020 et le très haut débit en 2022. Est-ce que des sanctions sont prévues pour les opérateurs qui ne respectent pas leurs objectifs ? Grand silence, personne n'a de réponse. Moi, je vous lis ce que je reçois. Et nous avons encore un appel. On a le temps. Oui, 3 minutes. Hervé, dans le Lot-et-Garonne.
Oui, bonjour. Ou bonsoir, d'ailleurs.
Bonsoir.
Bon, alors moi, je suis coordinateur d'un foyer pour personnes âgées.
Oui.
Donc, moyenne d'âge, 83 ans. Tout numérique.
Oui.
OK. Alors, ils me font rire, excusez-moi de dire ça comme ça, oui, Pôle emploi, etc., etc., oui, ok, les actifs, ou ceux qui devraient l'être, on est d'accord. Moi, je vous parle des personnes âgées. Les personnes âgées, aujourd'hui, si vous avez besoin d'un papier, vous écrivez une lettre, quand vous savez écrire, ce qui n'est pas toujours le cas, et vous avez une réponse, allez, entre 3 semaines et 2 mois,
oui.
Après.
Oui.
Voilà. Donc je vais faire très vite. Aujourd'hui, je fais contre ma direction, contre la loi. Je crée des adresses internet pour mes résidents. Je sais que ma direction peut m'entendre et je m'en fous. Je crée des adresses internet pour les inscrire sur Amélie, sur l'assurance vieillesse, sur voilà. Et je vais chercher les papiers parce que je peux les avoir plus rapidement pour faire des réactualisations de dossiers plus rapidement. Et ça, par contre, c'est un dossier dont, a priori, tout le monde se fout. Voilà. Vous avez personne qui représente, d'ailleurs, ce soir, les personnes âgées et qui c'est pas qu'elles veulent pas. Elles voudraient bien. J'ai une maman qui a 95 ans. Voilà. Elle paye son aide ménagère via Internet. Elle a deux applications. Elle suit ses comptes en banque et elle paye son aide ménagère. Voilà.
Mais, eh bien, c'est bien qu'on ait pu vous entendre. L'émission est proche de la fin, mais donc on constate que vous faites donc les démarches à la place de ces personnes âgées qui ne peuvent pas les faire.
Et alors voilà. Que je n'ai pas le droit de le faire, législativement parlant, je n'ai pas le droit de le faire.
Merci Hervé de nous avoir appelé. Jean Dédier, un commentaire sur cette situation.
Non mais c'est pas une surprise, les personnes âgées sont parmi les plus touchées.
Oui.
Mais effectivement, j'invite à ce monsieur d'être vigilant. Effectivement, parce que c'est un vrai sujet quand on est quand on se retrouve en situation où on a le compte bancaire et l'adresse mail de quelqu'un et les codes. Voilà, c'est toujours délicat. Voilà, mais c'est super ce que vous faites.
Sinon. Merci à nos invités Jean Dédier, Pascal Plantard et Missou Youn. C'était le téléphone sonne à demain soir 19h20 et vous écoutez France Inter. Bravo, c'est bien. Il est 20h15.